populaire des États-Unis de 1492 en juin.
Zine.
Chapitre 3. Ces individus de ville et indignes conditions.
Quatrième partie.
Indiens et noirs, auraient-ils pu, eux, se coaliser contre l'ennemi blanc? Dans les colonies du Nord, il y avait peu de risques que noirs et indiens se rencontrent en assez grand nombre. À New York, qui avait la plus forte population esclave du Nord, il y eut bien quelques contacts entre noirs et indiens, comme en 1712 lorsqu'ils se révoltèrent ensemble, mais on remédia bien vite à tout cela. Dans les deux Carolines, en revanche, le nombre des esclaves dépassait de loin celui des blancs, et les tribus indiennes étaient toutes proches. Dans les années 1750, 25 000 blancs étaient en présence de 40 000 noirs et de 60 000 Creeks, Cherokees, Choctaws et Chickasaws de la région. Gary Nash écrit à ce sujet : les révoltes indiennes qui ont ponctué l'époque coloniale et les soulèvements et complots insurrectionnels d'esclaves qui furent réprimés dans le sang firent prendre conscience aux habitants de la colonie que seule la plus extrême vigilance et la mise en œuvre de politiques destinées à diviser les deux populations pourraient permettre de garder le contrôle de la situation. L'un des dirigeants blancs des deux Carolines déclara que si on laissait les Indiens et les Nègres se rendre compte de leur importance numérique respective, ils seraient massacrés par les uns ou par les autres. Ainsi, vota-t-on des lois qui interdisaient aux Noirs affranchis de se déplacer à travers le pays. Les traités conclus avec les tribus indiennes présentaient souvent une clause qui prévoyait le renvoi des esclaves fugitifs. Le gouverneur de Caroline du Sud, Little Horn, se flattait en 1738 qu'il avait toujours été de la politique de ce gouvernement de créer chez les Indiens une aversion à l'égard des Nègres. Certains Noirs, pourtant, trouvèrent refuge dans les tribus indiennes. Les Creeks et les Cherokees accueillaient les esclaves en fuite par centaines. Nombre d'entre eux furent intégrés aux tribus indiennes, s'y marièrent et y eurent des enfants. Mais la combinaison d'un code de l'esclavage très sévère et de promesses de récompenses accordées aux Indiens lorsqu'ils livraient les fuyards noirs, suffit à conserver le contrôle de la situation. Ce qui rendit la révolte de Bacon si inquiétante pour les riches dirigeants blancs de la colonie de Virginie fut précisément la démonstration que blancs pauvres et esclaves noirs pouvaient unir leurs forces. Si l'aversion raciale naturelle que certains théoriciens mettent en avant existait réellement, il aurait été facile d'en jouer pour mieux opposer les deux communautés. Mais l'attirance sexuelle était en fait très forte et bousculait les clivages raciaux. En 1743, un grand jury de Charleston, en Caroline du Sud, dénonçait la pratique trop courante dans cette province des rapports criminels avec les nègres et autres esclaves du genre féminin. Nombre d'enfants, métis, naquirent de ces rapports sexuels fréquents, entre blancs et noirs, tout au long de la période coloniale. Et ce, en dépit de législations interdisant les mariages interraciaux en Virginie, dans le Massachusetts, le Maryland, le Delaware, la Pennsylvanie, les deux Carolines et la Géorgie. En déclarant ces enfants illégitimes, ces États les renvoyaient à leur famille noire et pouvaient ainsi assurer la pureté et le contrôle de la population blanche. Cette peur extrême peut expliquer les raisons pour lesquelles, en 1717, le Parlement anglais fit de la transportation vers le Nouveau Monde un châtiment légal. Après cette date, des dizaines de milliers de détenus furent envoyés en Virginie, au Maryland et dans les autres colonies. Cela permet également de comprendre pourquoi l'Assemblée de Virginie, après la révolte de Bacon, amnistia les Blancs, qui y avaient participé, mais pas les esclaves noirs. Ces derniers ne furent plus autorisés à porter des armes, alors que les Blancs, qui avaient fini leur temps, se virent offrir un fusil, du maïs et de l'argent. La distinction de statut entre serviteurs blancs et esclaves noirs s'affirmait donc de plus en plus clairement. Dans les années 1720, la crainte de révolte d'esclaves s'amplifiant, les serviteurs blancs furent autorisés, du moins en Virginie, à rejoindre la milice en tant que substituts d'hommes libres. Au même moment et dans la même colonie, des patrouilles pour la surveillance des esclaves furent organisées afin de parer aux graves dangers que pourrait provoquer un soulèvement des nègres. Les blancs pauvres participaient à ces patrouilles en tant que simples soldats et en touchaient la contrepartie monétaire. Le racisme s'inscrivait de plus en plus dans la pratique. Edmund Morgan, s'appuyant sur une analyse très détaillée de l'esclavage en Virginie, met au jour un racisme qui est le produit d'un mépris de classe et un véritable instrument de contrôle social. Si des hommes libres, au désespoir, avaient dû faire cause commune avec des esclaves désespérés eux aussi, les conséquences auraient pu dépasser en violence tout ce que Bacon avait pu commettre lui-même. La solution à ce problème, évidente mais jamais formulée, simplement progressivement assumée, était le racisme, seul outil susceptible de ségréguer les blancs dangereux, des esclaves dangereux, en élevant entre eux le mur du mépris racial. Il existait un autre type de contrôle qui se révélait plus efficace à mesure que les colonies s'accroissaient et qui eut des effets majeurs pour assurer la domination des élites tout au long de l'histoire américaine. Entre les très riches et les très pauvres, on assistait à l'émergence d'une classe moyenne, de petits planteurs, de fermiers indépendants, d'artisans des villes, tout blancs, qui, en contrepartie de petits privilèges que leur accordaient les gros négociants et les riches planteurs, constituaient un rempart efficace contre les esclaves, les Indiens de la frontière et les blancs misérables. Les villes, en pleine expansion, produisaient un plus grand nombre de travailleurs qualifiés et les gouvernements s'attachaient à soutenir la main-d'œuvre blanche en la protégeant de la concurrence des Noirs, esclaves ou affranchis. Dès 1686, le Conseil de New York décrétait qu'aucun nègre ou esclave ne serait admis à transporter d'une rive à l'autre de l'Hudson des marchandises pénétrant dans ou sortant de la ville. En Caroline du Sud, en 1764, la loi interdisait au patron de Charleston d'employer des Noirs ou tout autre esclave comme des manœuvres ou comme apprentis. Les Américains des classes moyennes pouvaient même être invités à se joindre à la nouvelle élite dans sa critique de la corruption des autorités en place. En 1747, le New-Yorkais Cadwallader Colden, dans son « Address to the Freeholders », accusait les riches d'être des accapareurs d'impôts totalement indifférents au bien-être d'autrui, soulignant qu'il était lui-même fort riche, et vantait l'honnêteté et la fiabilité des couches moyennes de l'humanité, dans les mains desquelles on pouvait confier plus sûrement notre liberté et nos biens. Argument rhétorique qui allait perpétuellement resservir dans le processus de domination d'une poignée d'individus sur la multitude de ceux auxquels ils vanteront sans jamais se lasser notre liberté, nos biens et notre pays.
notre liberté, nos biens, notre pays.
Le Pennsylvania Journal écrivait en 1756 « La population de cette province est globalement issue de la classe moyenne et se situe même aujourd'hui un peu au-dessus. Il s'agit essentiellement de fermiers industrieux, d'artisans ou de commerçants. Ils ont soif de liberté et en jouissent pleinement. Le plus humble d'entre eux considère qu'il mérite la considération du plus puissant. » Il existait en effet une classe moyenne d'une certaine importance qui correspondait à ce portrait. Néanmoins, user en ce cas du terme de peuple, c'est passer sous silence les esclaves noirs, les travailleurs blancs sous contrat et les Indiens refoulés. Quant au terme de classe moyenne, il dissimule une réalité qui vaut toujours aux États-Unis, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit, comme le dit Richard Hofstadter, d'une société petite bourgeoise, gouvernée dans une très large mesure par ses élites fortunées. Pour diriger, ces classes supérieures se devaient de faire des concessions à la petite bourgeoisie, sans pour autant mettre en jeu leur fortune et leur pouvoir. C'est donc aux dépens des esclaves, des Indiens et des Blancs pauvres que cela se fit. C'était là le prix de la loyauté. Enfin, pour s'assurer cette loyauté par quelque chose de plus puissant que de simples avantages matériels, le groupe dominant des colonies inventa, dans les années 1760 et 1770, un merveilleux et très efficace outil, le vocabulaire de la liberté et de l'égalité, capable de séduire suffisamment de blancs pour provoquer un soulèvement contre l'Angleterre sans pour autant mettre fin à l'esclavage et aux inégalités. Si des hommes libres, au désespoir, avaient dû faire cause commune avec des esclaves désespérés eux aussi, les conséquences auraient pu dépasser en violence tout ce que Bacon avait pu commettre lui-même. La solution à ce problème, évidente mais jamais formulée, simplement progressivement assumée, était le racisme. Seul outil susceptible de ségréguer les blancs dangereux, des esclaves dangereux, en élevant entre eux le mur du mépris racial.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.